Bonjour, en direct du comité Mamega, les échos du Grand Saint-Barthélemy sur Radio Galère 88.4 FM et sur le canal 8C du réseau numérique et sur le tout monde de Radio Galère sur les sites radiogalère.org et le site du comité Mamega qui s'appelle vivreensemble.org. Nous remercions notre invité aujourd'hui, Samia Chabani, s'est rendu disponible pour parler de la mémoire du Grand Saint-Barthélemy et pour parler aussi de la mise en perspective à travers des archives départementales et de personnalités qui l'ont marqué de leur empreinte. Dans l'équipe, il y a aujourd'hui Jean-Pierre Ega.
Bonjour tout le monde.
Karima Aberich, notre passeuse de mémoire. Farid Adrar, chargé de la conception, de la réalisation et qui fait aussi le micro-trottoir qu'on écoutera tout à l'heure. Et enfin, Sidi Diallo, le fidèle responsable de Radio Galère, sans quoi rien n'est possible, donc à la technique. Vous pouvez nous appeler en composant le 07 49 53 26 38. Aujourd'hui, donc, je rappelle que le thème de l'émission, c'est le Grand Saint-Barthélemy, archives et mémoire vivante. Nous allons peut-être commencer avec Samia, juste une présentation rapide avant de revenir plus tard au cours de l'émission. Qu'est-ce que c'est Ancrage ? Comment vous travaillez ?
Merci Saïd, merci Jean-Pierre et Karima pour votre invitation à cette émission que je me réjouis de partager avec vous. Alors, l'association Ancrage, c'est une association qui existe depuis 2020 et qui s'est donné pour objectif de valoriser l'histoire et les mémoires des migrations à Marseille, mais évidemment également l'histoire notamment des quartiers populaires. 2000, pardon. Voilà, bah, comme ça, tout est dit. Le niveau de fatigue aussi. 2000, bien sûr. On existe depuis à peu près 22 ans. Et donc, l'objectif de l'association, c'est de valoriser cette approche territoriale et pas l'approche principale, mais plutôt celle des communautés migrantes à Marseille, dans leur diversité et puis dans leur transversalité aussi, c'est-à-dire les lieux d'habitat, les lieux de travail, les espaces de travail, la pratique aussi et l'histoire culturelle qui est liée à ces populations à Marseille.
Merci. Donc, on va faire une première pause musicale. Tout à l'heure, on continuera l'émission. Tu pourras aussi, Samia, participer. Il y aura des interventions de Karima et de Jean-Pierre. Et ensuite, on parlera spécifiquement de ton travail.
Merci.
Alors, et ce Paris-là, c'est vraiment beaucoup plus grand que Marseille.
À Paris, j'ai vu au moins 50 canneliers.
Partout, tout le monde dit que la plus belle ville du monde est sans doute Paris. Ça ne me vexe pas, au contraire je ris. J'instaure le débat et je vais être précis. Y'a pas d'enfer, y'a pas de paradis. Moi j'aime ma cité et c'est pourquoi j'y vis. Dans la compétition au titre par catégorie. Si Paris est la plus belle, Marseille est la plus jolie, yeah. La Canebière, le mieux pour et Notre-Dame de la Garde. Les réformés, le cours Julien, la Plaine et la gare Saint-Charles. La rue Loubon, Palais Longchamp, 5 avenue, boulevard Chaves. Rue de Lyon, la place d'Aix, le cours Lyotot et Castellane.
C'est un rendez-vous à Marseille, là sur le quai. Voyage au pays des merveilles, ensoleillé. C'est un rendez-vous, dépêchez-vous, avec la cité qui vous rendra fou.
Bleu, 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 bleu. ciel est grand, ok calo, rire d'enfant, la nuit est l'audio, Bruno son, libère les amours.
Es ma ciutat, ma donna, ma capitale. Es ma nación, ma douce, ma generale. Es mon île, mon mater, mon recali. Oh mon bel jardin, dei deli.
Spéciale dédicace à tous les amuseurs, à ceux qui font danser les Marseillais, à tous les vagabonds fines, les rockers, les rappeurs, et à tous ceux que j'allais oublier. J'écris une épitaphe, encore deux ou trois taffes, j'enterre la tristesse et le stress. Je profite du rhythm, j'assure l'intérim, j'évacue la pression, je me redresse. Fais bouger tes pieds, tes genoux, tes hanches et puis tes épaules. Plus on rit, plus il y a de fous, plus on est fous, plus on rigole. Il faut chanter avec passion, organiser des farandoles. Écoute, fais bien attention, mais apprends vite les paroles.
C'est un rendez-vous à Marseille, là sur le quai. Voyage au pays des merveilles, ensoleillé. C'est un rendez-vous, dépêchez-vous, avec la cité qui vous rendra fou.
Vaiavant, vali mon pichou, siamo bourregan, dis-le canto, rouge et sang, sous les poteaux, toujours des flammes, sous les cansous.
Es ma ciutat, ma donna, ma capitale. Es ma nación, ma douce, ma generale. Es mon île, mon mater, mon recali. Oh, mon bel jardin, dei delici, dei delici.
L'émission Les Échos du Grand Saint-Barthélemy, avec la participation aujourd'hui de notre invitée Samia Chabani, directrice de l'association Ancrage. Je donne la parole tout de suite à Karima Berich, qu'on appelle la passeuse de mémoire.
La passeuse de mémoire, je préfère.
Et Jean-Pierre, vous savez qui parle, mais sans micro.
Absolument. Alors, au regard de la thématique d'aujourd'hui, donc je vais quand même poser un peu le contexte de ce territoire, si vous me le permettez. Donc, initialement, l'emplacement du Grand Saint-Barthélemy se trouvait le plus grand bidonville de Marseille, comptant jusqu'à plus de 6000 habitants, selon l'historien Émile Temim. Mais dès les années 60, des milliers de logements sociaux seront édifiés, ainsi que des centaines de logements d'accession à la propriété sur ce territoire. Pour les nouveaux arrivants, il est indéniable que les conditions de logement sont un réel progrès, manquant alors dans leurs anciens logements du confort le plus élémentaire. La présence de sœurs catholiques et de prêtres ouvriers est à souligner dès cette époque. Ces derniers organisent les premières actions collectives en direction de la population. Un petit mot pour le père Pinatel qui a contribué dès les années 60 à organiser ces rencontres et ces actions collectives à fond vert. Mais très rapidement, un sentiment d'insatisfaction apparaît au sein de la population. Prix des loyers jugés trop élevés, parties communes mal entretenues, manque d'école, difficulté à construire un quelconque sentiment d'appartenance vis-à-vis de ce nouveau territoire. Si l'image d'une énorme cité dortoir prédomine, des militants associatifs et des habitants vont, dès le milieu des années 60, mettre en œuvre une démarche globale d'animation et d'action collective qui façonneront durablement l'identité du Grand Saint-Barthélemy. Elles seront à l'origine de la marque de fabrique d'une histoire associative si singulière, le Grand Saint-Barthélemy. Effectivement, quand on a commencé à travailler sur cette thématique avec Jean-Pierre Hégan, on s'est dit, mais qu'est-ce qui est le marqueur ? Qu'est-ce qui singularise ce territoire composé de tours et de bars par rapport à d'autres territoires relativement commun dans cette ville de Marseille, c'est son histoire associative. Donc c'est un marqueur extrêmement important et qu'on a voulu souligner aujourd'hui. Mais avant que les associations s'organisent, il y a eu d'abord des militants et des militantes, des hommes et des femmes, qui ont d'abord contribué à marquer l'histoire du Grand Saint-Barthélemy. Évidemment, nous ne pouvons pas évoquer Françoise Héga, mais aussi d'autres, Marie Santofanti, Marguerite Jouve, Madame Vinotti, Odette Aragonais, Monsieur Séverin Montarello, Monsieur Lippi, Monsieur Sebaoui, Monsieur Acroun, Monsieur Thir, Jacques Marty et tant d'autres, tant ce territoire est riche de ces hommes et de ces femmes qui ont contribué à façonner son histoire. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a 4 rues qui portent le nom de ces personnes-là, entre autres, de 4 d'entre elles, à l'occurrence Françoise Héga, Jacques Marty, Mahboubi Thir et Odette Tarragonais. Nous parlerons, je crois, plus tard de la question de nom de rue. Il faut savoir que c'est le comité Maméga qui était à l'origine de cette démarche. Quand on parle d'histoire, quand on parle d'archives, je pense aussi que les murs et les rues doivent porter aussi cette histoire-là. C'est extrêmement important que ce ne soit pas seulement par des livres, des films ou autre chose, mais qu'aussi ces murs qui ont été habités par ces personnes, qui les ont transformés par ces personnes dans leur engagement multiple, portent aujourd'hui les noms de ces personnes malheureusement disparues. Alors, le point de départ de cette histoire singulière, c'est la mobilisation pour plus d'écoles en nombre au regard de la démographie locale de l'époque. Mais très vite, le cahier de doléances s'étoffe pour réclamer au pouvoir public des équipements socioculturels et sportifs. Un équipement va être le lieu de rencontre et d'organisation de lutte, c'est la maison de quartier Busserine. Un collectif d'habitants et d'acteurs associatifs va poser durablement les jalons de cette fabrique d'une histoire associative singulière en créant en 1972 l'association d'animation socioculturelle Maison de quartier Busserine qui deviendra en 2007 le centre social Agora. Voilà, je ne vais pas m'attarder un peu plus longtemps. Je laisse la parole à Jean-Pierre Héga pour nous présenter les associations et équipements culturels du Grand Saint-Barthélemy.
Oui, Jean-Pierre, ça sera un peu après.
D'accord. Ok.
Sur les personnes dont tu parlais, c'est de quelle génération en gros parce que
c'est... Alors c'est les années 60. En fait, ce qui est intéressant, notamment pour un certain nombre d'entre elles, quand on a eu travaillé sur le livre de M. Thir qui raconte l'histoire des années 60, même avant, puisque du bidonville jusqu'en fin 90, c'est des gens qui étaient, comme beaucoup de Marseillais, dans des logements relativement insalubres, etc. Mais pour certaines d'entre elles, ce qui est intéressant, c'est qu'elles étaient résistants et résistantes durant la Seconde Guerre mondiale et que c'est par le biais associatif et par la mobilisation collective qu'elles ont voulu s'engager là pour améliorer les conditions de vie et surtout le cadre de vie, puisqu'à l'époque, comme je l'ai dit, c'est surtout des bars et des tours qu'on élève. Et on fait l'impasse, les pouvoirs publics font l'impasse sur ce qu'on appelle des équipements structurants qui participent du vivre ensemble et de la vie en collectivité. Et donc, elles vont s'engager, ces personnes, pour améliorer ce cadre de vie si cher dès le départ à ces hommes et à ces femmes.
Il faut rappeler qu'à l'époque, les gens venaient de beaucoup de bidonvilles, que pour eux, habiter ici, c'était une promotion sociale très, très importante.
Alors, il y a une petite histoire qui est intéressante dans la question du logement, mais peut-être aussi ma collègue pourra abonder là-dessus. C'est qu'effectivement, on a des images du père Galoucher. C'est intéressant parce que les prêtres ouvriers ont aussi conservé la mémoire de cette époque-là. Donc, on a des photos du père Galoucher, notamment sur la voie rapide qu'on connaît aujourd'hui, et une partie de fond vert qui constituait le plus grand bidonville de Saint-Barthélemy. Et on voit les premières cités, c'est Picon d'ailleurs, c'est la première cité qui va être construite au début des années 60, c'est Picon. Et en fait, ces grands ensembles sociaux vont être construits pour accueillir les mal-logés marseillais et les rapatriés d'Afrique du Nord. Le bidonville de Saint-Barthélemy est alors habité essentiellement par des familles algériennes qui, elles, attendront plus tard pour pouvoir accéder à ces logements. On pense à l'époque qu'elles ne sont pas aptes de passer du bidonville au logement social et c'est un mode d'habitat transitoire qui va leur être proposé. Et c'est quand même intéressant cette question parce que sur l'histoire des migrations, c'est déjà un marqueur pour disqualifier et ségréguer ces populations et pas les traiter de la même façon que les autres. Mais effectivement, pour les Marseillais, les rapatriés d'Afrique du Nord, mais c'est une amélioration en termes d'habitat, c'est indéniable.
Effectivement, lorsque nous sommes arrivés dans les années 69 à la Busserine, Il y avait donc le bâtiment J, le bâtiment M, le bâtiment L, la Q, les deux tours de la Busserine. Et en ce qui concerne le Grand Saint-Barthélemy, il faut savoir que ces immeubles étaient neufs dans les années 69-70. La construction était en train de se terminer. Et nous avions des appartements avec des T4, des T5 même, il me semble, avec un balcon dans chaque pièce de vie. Donc, on pouvait le balcon dans la salle de bain, le balcon dans la cuisine, le séjour, chaque chambre avait son balcon. Et effectivement, c'était quand même une plus-value par rapport à ce qui existait dans les anciens, des anciens bâtiments comme Saint-Just, les Olives, etc. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu un luxe, quoi.
C'était l'époque de l'illusion qu'il suffisait de faire des bâtiments, des HLM, pour que tout aille. Donc, on oubliait que les gens, c'est pas seulement métro, boulot, dodo, même s'il n'y avait pas de métro à l'époque.
Oui, tout à fait. Donc, ce que je disais, c'est qu'à l'époque, on a l'impression d'être dans un immense dortoir qui accueille des salariés, pour l'essentiel, issus de la classe ouvrière. Mais très vite, ces personnes dont j'ai cité les noms en introduction vont s'engager pour améliorer les conditions de vie, ce qu'on appelle aujourd'hui le cadre de vie. Le cadre de vie n'est pas composé que de logements, mais évidemment d'équipements scolaires, d'équipements culturels, d'équipements sportifs, qui participent du lien social et qui constituent le lien social et qui construisent le lien social. Et c'est intéressant, on voit l'intelligence d'habitants qui, très rapidement, vont le poser publiquement auprès donc, des pouvoirs publics et du maire de l'époque, c'est Gaston Defer. Et notamment en mettant en place ce qu'on appelle la première grève, la première concertation, mais surtout la grève de la concertation, parce que tel que c'était présenté, ils n'étaient pas d'accord. Et je trouve que cette histoire, elle est intéressante à raconter. Donc ça a été fait par le livre, dans le cadre du livre sur M. Thir, mais évidemment aussi par d'autres actions des acteurs associatifs de ce territoire.
Merci. Comme dit l'animatrice habituelle, Lily, une respiration musicale avec Abdelmalik.
Comme Belzins dans notre quartier, comme s'il débarquait d'un livre de Pagnol. C'est sensiblement pareil le neuf et les quartiers nord. Violent comme nous, sauf que lui dégageait notre ciel comme le Mistral lorsqu'il parlait. Il disait je crains un dégain avec la confiance de ceux qu'ont le soleil comme patrie. Il tirait selon lui sa baraka de la bonne mère quand il faisait de la thune et ça nous faisait gaulerie. À l'époque, franchement, on pensait qu'à notre gueule pour être honnête. Alors que lui, il envoyait des mandats à ses potes à la prison des Baumettes. Quand le soleil tapait fort, il nous parlait des îles du Frioul. Avec tant d'éloquence que dans la cité, on disait qu'il était fou. Il était rasta, mais plutôt côté Massilia Sound System. Avec l'esprit de Marius en plus, mais côté victime du système, le Marseillais.
On est là.
Le Marseillais.
On est là.
Le Marseillais,
on est là.
Seul, le Marseillais,
on est là.
Seul. Il avait le biais pour faire caguer son monde parce qu'il pouvait être loup quand ça le prenait. Et dans la cité, on finit toujours par ostraciser celui qui fait de l'ombre. Et avec son tempérament mistral, fallait surtout pas l'incendier. Il commençait à avoir du mal à traîner son ombre jusqu'au soleil, mais avait toujours l'âme de ceux qui sont unis par une ville. Il disait que même loin, Notre-Dame montait la garde pour lui. Mais c'est surtout dans notre milieu que les valeurs commençaient à se taire. Pourtant, lui, en loyauté, restait aussi traditionnel qu'une bouillabaisse. Quand le soleil hissait son drapeau, il nous comptait les calanques de Sormiou. Comme une contrée magique, et dans la cité, on disait qu'il était fou. Toujours rasta, mais il virait côté mauvais trip. Un peu dans le style Fanny, côté esprit de sacrifice. Le Marseillais.
On est là.
Le Marseillais.
On est là.
Yeah.
Le
Marseillais.
On est là.
Uh-huh.
souriait mais piquait du nez à cause de l'héroïne. Bavé, fait du bien à Bertrand, il te le rend cagant. Lui, il nous aimait vraiment quand nous, on le trouvait juste marrant. En vrai, c'est à cause de nous, à cause de la cité qu'il a plus été clean. Parce qu'après Avignon, c'est le nord et le climat peut y être glacial. Pour tous ceux de toutes les couleurs qui sont de la race de Frédéric Mistral. On le regardait comme s'il n'était pas comme nous et c'était bête. Parce que, comme il le disait lui-même, on était pareil, tous prisonniers de la Thèse. Alors qu'il y avait un cagnard à faire évaporer la mer, lui, il était allongé dans une cave du Grand Est. Il était plus ou moins rasta, mais côté Jim Morrison. La vie avait été pour lui comme Panis pour Cesario, et maintenant, il n'y avait plus personne. Le Marseillais.
On est là.
Le Marseillais.
On est là.
Yeah. Le Marseillais.
On est là.
Le Marseillais.
On est là.
Yeah.
Le Marseillais, Marseillais, Marseillais.
Seul,
on est là.
Seul,
on est là.
Seul,
on est là.
Les échos en direct du comité Maméga, les échos du Grand Saint-Barthélemy. Maintenant, nous allons donner la parole à Farid, qui a une nouvelle mission depuis une ou deux émissions, c'est de nous faire des micro-trottoirs. Donc ça permet d'enrichir un peu l'émission. Alors, tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour celui-ci ?
Merci de me donner la parole, Saïd, par rapport à au micro-trottoir, par rapport à cette thématique. Ça a été un petit peu, pas délicat, mais un petit peu intéressant. Parce que quand j'ai posé des questions autour de ce territoire-là, ces jeunes, malgré qu'il y a des difficultés ici, dans ces quartiers-là, autour de l'urbanisation, autour de tout ce qui est équipement sportif, tout ça, etc., etc., c'est vrai qu'ils sont bien dans leur quartier. Ça m'a surpris. Ils sont vachement bien dans leur quartier.
Tout à l'heure, Karima a parlé de sentiment d'appartenance. On va l'écouter tout à l'heure.
Mmh. Ouais. Ils sont vachement bien dans leur quartier, quoi. Ils sont... Voilà, c'est pas un territoire. Ils sont bien, quoi. Et je leur ai dit pourquoi. Ils me disent, voilà, on est bien dans notre quartier. On a nos amis, on a nos potes, nos collègues, on a grandi ici.
Comment tu as choisi ces gens que tu as interviewés?
Je tiens à remercier Rania, la présidente d'Alafou, qui m'a présenté ces jeunes-là. On s'est donné rendez-vous à la place dehors du centre social L'Agora. Et ces jeunes-là, voilà, elle m'a présenté 4 jeunes. Il y avait 2 filles, elles étaient un petit peu timides, elles n'ont pas voulu se reprendre la parole, par timidité. Et surtout en période de Ramadan, c'était pas évident, c'est vrai que les jeunes, elles étaient un petit peu fatiguées. Sinon, voilà, il y avait 2 jeunes, jeunes comoriens surtout, et un jeune algérien, d'origine algérienne et d'origine comorienne, c'est des Français avant tout, hein, je tiens à l'exprimer, désolé, excusez-moi. Et c'est là que je leur ai posé la question. Et là, par contre, où j'ai été vraiment surpris, c'est sur les ateliers de noms de rue. Les noms de rue, vous allez écouter, ils n'en connaissent qu'une. Et ils ont donné un nom de rue qui n'est pas officialisé. Et ça m'a vachement surpris. Et ce qui est intéressant à la fin, je lui pose la question concernant si tu as donné un nom de rue. Il parle de son ami, mais sur le bien-être, c'est-à-dire des actions qu'il va mener plus tard. Et vous allez voir.
Voilà. On va écouter ça. Merci.
Les échos du Grand Saint-Barthélemy, ici en direct, au centre social Agora, avec le groupe d'Alafou, notamment des jeunes du quartier de la Busserine. La thématique aujourd'hui, c'est mise en perspective du Grand Saint-Barthélemy, archives mémoire vivante. Je vais poser quelques questions à quelques jeunes autour de ce fameux micro-trottoir à qui je remercie Arania de m'avoir accepté d'être là. Si vous pouvez parler un peu plus fort, ce serait bien. Voilà. Déjà, une question dans le domaine de votre histoire ici, dans votre lieu de vie ici. Comment tu vis dans ton quartier?
Ça va, je vis bien, ça c'est cool. Quoi.
C'est la vivance.
C'est la vivance.
C'est la bonne humeur, c'est un beau quartier.
La joie.
Moi, pour moi, la Busserine, c'est le meilleur quartier du 14e. Ils ont plein d'investissements. L'Agora, ça fait partie de la Busserine. Voilà. C'est le plus grand centre des Bouches-du-Rhône. Et à la Busserine, il y a une gare. La gare qui mène vers Saint-Charles ou vers Gardanne, Aix. Beaucoup d'agglomérations.
Est-ce que vous vous sentez appartenir à et attaché à ce territoire?
Ouais, moi je me sens attaché.
C'est quoi ton prénom?
Moi c'est Requin.
Ok.
Ouais. Ouais, moi je suis attaché à mon quartier. Jamais je trahirai mon quartier.
C'est bien. Non, c'est bien. Continue.
C'est ça, hein. Continue. Je dirais Triviane.
Oui, Jeanne.
Frérot, on rentre toujours ici, nous. Depuis petit, on traîne là, la Goura. On est attaché ici, c'est très bien.
Et pourquoi?
Parce qu'on a grandi ici, j'ai l'habitude de rester ici. Hein.
Ah là, l'endroit où on était, il y avait un bâtiment, c'était le H. On se calait dedans, au jour d'aujourd'hui, il a été détruit. Ça a été un choc pour nous, ça.
Et votre famille, elle est installée depuis quand?
Elle est installée depuis ma naissance. Hein. Depuis ma naissance, je suis
même
là.
Avant, non?
Même avant, il y a ma voisine qui est ici, qui est venue après moi. Qui est venue après moi. Et voilà, ici, c'est la belle vie. Hein.
C'est la plus bas, hein.
Connaissez-vous certains noms de rues ici qu'on a mis en place?
Oui, il y a la rue Menzer qui vient d'être créée il n'y a pas longtemps.
Non, c'est pas une rue. Non, désolé, moi c'est une rateur. Vas-y.
Il y a la rue Gardien en haut, il y a la rue Tire la Busserine.
Voilà.
Il y a Tire le Maille, mais ça fait pas partie de la Busserine, ça. Voilà. Et à Rémy la Busserine aussi.
Ouais. Et récemment, tu as vu qu'on a inauguré trois noms de rue? Non?
Non, je n'ai pas vu.
Il y a la rue Odette Tarragonnet. Ouais, Jacques Marty.
Jacques Marty à la Busserine?
Ouais.
Non, je n'ai pas vu.
Et la rue Jacques Marty, elle est située à côté du magasin de Menzer.
Ah ouais?
Ouais. Et la rue François Zéga?
François Zéga, oui, j'ai vu. C'est la rue, la nouvelle route, là.
Voilà, exactement. Aujourd'hui, les nouveaux noms de rue, celui de Mahboubitière que tu viens de citer à l'instant, est-ce qu'il vous parle?
Non, ça me parle pas trop, mais il y a des histoires que je connais en bref, mais que je ne sais pas.
Est-ce que ici, à la Busserine, tels que Fontvert, Picon, etc., aujourd'hui, les nouveaux noms de rue, tels que celui de la rue Mahboubitière, et les noms de rue comme Jacques Marty, François Zéga et Odette Tarragonnet, penses-tu que donner un nom de rue à une place de quartier d'un habitant serait important ou pas dans ce quartier-là?
Oui, c'est bien, parce que ça inspire les jeunes à avoir une bonne avenir. Par exemple, j'ai envie d'être bon, comme ça peut-être plus tard il y aura un nom sur ma rue. Et voilà, c'est bien.
Est-ce que tu n'as pas pensé à d'autres habitants qui ont marqué un petit peu l'histoire de ce quartier?
Oui. Par exemple, il y a Amada Jambé.
Il y a le stade?
Et oui, il y a un stade. Là, on a notre ami qui est fort handball. Peut-être que s'il grandit, il y aura un truc pour lui. Voilà, c'est important.
Qu'est-ce que tu pourrais dire de l'histoire de ce territoire pour clôturer ce micro-trottoir?
Il est plein d'histoires. Riche en émotions et vivant. Vivant.
Autour de quoi?
Autour de... Du...
Militantisme?
Militantisme, oui, voilà. C'est le mot que je cherchais.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce fameux micro-trottoir. Je rends l'antenne à l'équipe des Échos du Grand Saint-Barthélemy après une pause musicale. Merci.
J'ai changé les noms de toutes les rues, j'ai donné le nom de mon histoire. Rue du 3 juillet, c'est là qu'on s'est vu, premier jour toujours dans ma mémoire. La rue du premier rendez-vous mène à la rue des rêves tendres, et la rue qui est juste au bout, c'est la rue où j'allais t'attendre. Et voici plus loin la rue des aveux et la rue du 31 décembre, qui devint bientôt pour deux amoureux la rue de la petite chambre. Mais le bonheur n'est pas fidèle, il s'en va comme il est venu. Ma belle histoire était trop belle, en un moment j'ai tout perdu. Et tout d'un coup dans cette ville, j'ai détesté ces rues tranquilles. J'ai changé les noms de toutes les rues, j'ai donné les noms de mon histoire. Et l'horrible rue où j'ai attendu restera pour toujours la rue noire. La rue où je t'ai vu partir mène à la rue de ton absence. La rue où j'ai bien cru mourir part de la rue de la malchance. J'ai changé les noms au hasard des jours, jours heureux et puis jours détestables. Et mes noms de rue sont des mots d'amour, plus vrais que les noms véritables. J'ai changé les noms de toutes les rues, moi je m'en souviens, toi t'en souviens.
Merci pour ce micro-trottoir réalisé par Farid en collaboration avec Richard Martini. Je vais maintenant donner la parole à Ega, pas Jean-Marc, parce qu'il paraît qu'il n'est pas là, mais Jean-Pierre, c'est l'autre.
Alors c'est celui qui est un peu plus timide et qui n'a plus l'habitude de parler en public, donc vous m'excuserez pour toutes mes maladresses. Mais heureusement, Karima est là pour me stimuler, me booster. Donc, par rapport à ce micro-trottoir, c'est vrai que vu que j'ai grandi dans ce quartier aussi, et j'y ai passé beaucoup d'années, le sentiment d'appartenance de cette jeunesse, eh bien, c'est un sentiment que j'ai éprouvé, que j'ai ressenti. On a l'impression que le quartier est à nous, qu'il nous appartient. Malgré les difficultés, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qui est nôtre. Et je comprends donc qu'on puisse, malgré tout, trouver ses marques et se sentir bien. Nous sommes un petit peu... Nous avons été... la relève après ce collectif de personnalités qui se sont engagées pour le faire changer la vie de ce quartier. Et dans les années 60-70, la vie associative à la Busserine était la plus intense de Marseille. C'est un territoire dans lequel beaucoup d'associations, d'institutions et d'équipements ont été créés. Et c'était une histoire un petit peu assez exceptionnelle. En 1964, l'histoire de l'espace culturel Busserine, qui a été à l'époque le centre de culture ouvrière, le non-renouvellement de la convention donnant en gestion les locaux du lieu qui deviendront après la Maison pour tous. L'un des premiers directeurs a été Jacques Allaire à l'époque. Lui succéderont Francis Montarello, Dominique Julien, puis son époux Philippe Julien. 1985, ça a été la création donc de l'espace culturel Busserine. Le même lieu s'est transformé en espace culturel Busserine, soutenu par la mairie de secteur, la région, la DRAC, le Fonds d'action sociale, le FAS, dans le cadre du DSQ, Commission du développement social des quartiers. L'espace culturel Busserine s'organisait autour de différents pôles, un lieu de répétition et de création dans lequel œuvraient le Théâtre de la Mer et la compagnie Nouveau Regard, une salle de spectacle, une scène ouverte à la sensibilisation et la formation, stage de danse, initiation aux techniques de la scène et à l'organisation de spectacles. Gilbert Secaldi a été l'un des directeurs dont on se souvient. à la direction à Seine va s'investir sur la gestion du lieu financé par la ville, l'Office municipal de la culture. Très peu de temps après, en 1976, c'est l'époque où Françoise Degas est décédée, elle a participé un petit peu à toutes ces créations, puisque la population demandait des équipements dans ce quartier qui était quand même assez désertique, on va dire, au niveau d'équipements. 1976, donc, c'est l'histoire du Théâtre du Merlan, qui scène nationale. Le Théâtre du Merlan est situé dans un centre urbain abritant un grand centre commercial. Le bâtiment du théâtre est né de l'urbanisation des années 60-70, qui a structuré les 13e et 14e arrondissements de la ville. Les cités des quartiers nord, la réalisation du Théâtre du Merlan a été opérée dans ce contexte en 1976. En effet, c'est à l'issue d'une négociation au début des années 70 entre la municipalité et les promoteurs immobiliers qui souhaitaient l'implantation d'une galerie marchande dans ce secteur de la ville que 2000 mètres carrés de surface sociale ont vu le jour. Dans les années 80, cette expérience a pris la forme d'un théâtre de ville qui a perduré jusqu'en 1992, dirigé à l'époque par Renaud Mouillac, qui a été le premier directeur de la maison de quartier de la Busserine. Non, le second, le premier étant Séverin Montarello. Cet espace théâtral était particulièrement fermé au quartier nord. C'est en 1992 que le maire Robert Vigouroux a fait une demande auprès du ministère de la Culture, de la Communication, pour la création d'une scène nationale à Marseille, à cet endroit-là. En 1984, au niveau de la vie associative, bon, l'association que j'avais créée à l'époque, Body and Soul, pour un noyau d'adolescents autour de la danse moderne jazz, l'association s'est inscrite durant presque 4 décennies dans ce paysage culturel marseillais. Toutes les collectivités territoriales ont connu, parfois reconnu ou soutenu cette association. Le cœur de l'association Body and Soul était en fait la compagnie Nouveau Regard, compagnie de danse contemporaine de 1990 à 2009. Un chapelet de création qui a invité la population marseillaise et surtout du nord de Marseille au rêve, à la méditation et surtout à l'action artistique. Il faut savoir que les premiers spectacles de danse qui ont eu lieu dans ce quartier, où les danseurs venaient en collant, nous travaillions à l'époque avec des compagnies de danse d'Aix-en-Provence, Aix-Atelier Jazz Company, et les jeunes n'avaient jamais vu de spectacle de danse, puisqu'à l'époque, la télé ne diffusait pas autant de spectacles de culture, théâtre ou danse. Et les jeunes étaient un petit peu estomaqués de voir des danseurs en collant, des hommes, des femmes. Et ils ont même essuyé à un moment donné des jets de pierre. Cette dynamique culturelle donc de l'association Body and Soul s'est traduite aussi à travers de multiples actions dont les principales ont été en 1984, donc la création artistique avec la compagnie Nouveau Regard. En 1990, l'encadrement en milieu scolaire. Nous existions même avant, à l'époque de Jacques Balouza, avant que l'idée même d'activité culturelle puisse être proposée dans les quartiers. Nous étions précurseurs. En 1992, l'action médiation culturelle en direction de différents publics, des anciens toxicomanes, des personnes fortes, et en mixant tous ces publics-là. Et la médiation corporelle et insertion. Nous proposions des activités culturelles, mais aussi des sorties culturelles. Nous faisions découvrir des spectacles à l'espace culturel Busserine, au Théâtre du Merlan et même au centre-ville à La Criée. Voilà. Malheureusement, en 2000, l'association Body and Soul, l'association en 2000 reçoit quand même le premier prix de la culture du 14e et 13e arrondissement de Marseille. L'association, malheureusement, donc fermera ses portes en 2009. En 1986, nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas oublier cette association Sheba qui a été à un moment donné prépondérante, prédominante sur le territoire. Elle a été créée par Zubida Megheni Tani et Najet, mais aussi les sœurs Boudjelal, Nora, Dalila et d'autres que, dont j'ai oublié le nom. Il y avait à sa direction Fatima Oudkadour et Madame Karima Elou. Le projet associatif de l'association reste bien enraciné dans sa démarche d'éducation permanente et d'émancipation des femmes au travers des valeurs d'égalité, de justice sociale, de solidarité qui se manifestent par le développement, l'autonomie, l'insertion sociale et professionnelle d'un très grand nombre de femmes vivant sur le territoire du Grand Saint-Barthélemy. Depuis sa création, il y a bientôt maintenant, je pense, presque 40 ans, l'association Sheba a toujours su trouver ou imaginer des réponses originales adaptées à la situation des femmes. Toutefois, d'année en année, le travail est rendu difficile, comme pour les autres associations, par les évolutions sociales, culturelles et économiques de la société, ce qui oblige à changer et à se réadapter en permanence pour décrocher de nouveaux financements, inventer de nouvelles réponses qui permettront de poursuivre et atteindre des objectifs. On se souviendra bien sûr des parents relais, plus de 20 salariés à l'époque sur le territoire, des mères de famille qui faisaient le lien entre les parents et l'éducation nationale et les professeurs. Objectif du projet était de favoriser la citoyenneté, l'égalité d'accès aux droits, de favoriser le lien social des habitants et des institutions, de développer l'insertion sociale et professionnelle des femmes en difficulté par l'apprentissage du français, l'autonomie des femmes, la responsabilité des parents. En 2000, et si Fatima Oudkadour a été la première présidente, en 2000-2021, la dernière présidente étant Leïla Ega. Voilà. Karima, tu veux intervenir peut-être sur...
Non, pas encore. Après.
Donc on va poursuivre notre déambulation dans le temps. Et en 1989, ce sera donc des partenaires du territoire du Grand Saint-Barthélemy qui participent à une réflexion sur les actions à proposer en direction du public jeune. Cet échange regroupe le centre social Picon, disparu aujourd'hui, l'AASEQB, actuel centre Agora, le FCEP, devenu la DAP 13, le centre social des Flamands, la maison des familles et des associations, la mission locale qui était située à l'époque Cité des Flamands. Il est décidé donc de mettre en œuvre ensemble un dispositif de proximité pour favoriser l'accueil, l'information et l'accès aux droits. Passerelle est donc créée en février 90. La recherche de locaux est nécessaire car il n'existe à cette période d'accueil, de proximité pour les jeunes sur le territoire. À l'heure actuelle, aujourd'hui, Passerelle se trouve à côté du comité Maméga, dans le prolongement du bâtiment E, où ont vécu d'ailleurs Madame Françoise Ega et Monsieur Thier. Il faut donc voir sur cette dizaine d'années, donc, l'action culturelle a quand même été assez importante. Nous avions le CB, le Théâtre du Merlan, Baudienne-Soul, le Théâtre de la Mer. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'en 1990, à l'époque de Jacques Lang, quand il y a eu des grandes actions autour de Paris, Lyon, Marseille, la DRAC donc, a proposé des résidences chorégraphiques avec des grands noms de la danse. Pourquoi à la Busserine et non pas au centre-ville dans notre quartier? Parce qu'à l'époque, la compagnie Nouveau Regard et l'association Baudienne-Soul faisaient un travail très important de sensibilisation, de démocratisation culturelle, l'accès à la culture pour tous et l'accès pour le plus grand nombre. Et de fait, donc, les résidences chorégraphiques ont eu lieu avec Régine Chopineau, Karine Saporta, Marise Delante, José Lennon, donc que des grands noms de la culture, de la danse, du monde de la danse académique, donc, avec un grand D. Et ensuite, en 1990, c'était aussi l'époque de Geneviève Sorin qui a proposé donc une collaboration entre Baudienne-Soul, des danseurs de la compagnie Nouveau Regard et de sa compagnie, et trois des membres de la compagnie, quatre même. Et il y a eu Jessie Contaré, Belkacem Tir, Louisa Amouche et moi-même. Et nous étions donc salariés intermittents du spectacle au sein de la compagnie Nouveau de la compagnie Geneviève Sorin, Miari. Donc, je poursuis après cette pause importante, cet arrêt important sur la culture. Donc,
tu en es en quelle année là ?
Là, je suis en 1990. Les fondements de passerelle, j'ai oublié de le dire, étaient donc de ne pas se substituer à chacune des associations partenaires, d'œuvrer à une action concertée en direction du public adolescent et jeune habitant du Grand Saint-Barthélemy, et développer des actions visant l'accès aux droits par l'information et la mise en réseau grâce à la mobilisation des intervenants animateurs et éducateurs des structures partenaires. J'ai bientôt terminé cette déambulation dans le temps. Nous sommes en 2002 et Main dans la mer a été créée en 2002 par Joséphine Banac. C'est à l'heure actuelle l'une des plus importantes associations d'aide intergénérationnelle qui se veut complémentaire des autres structures de proximité existantes. Main dans la mer, créée par Joséphine Banac, propose des prestations et services d'aide à domicile. Courses, entretien du domicile, préparation de repas, assistante à domicile sans actes médicaux, petits travaux de jardinage et bricolage, garde maison, accompagnement, sortie, véhicule, loisirs, animation à domicile, anniversaire et bien sûr garde d'enfants et soutien scolaire à domicile. Enfin, l'une des structures que l'on ne peut oublier, c'était bien sûr l'œuf. La Fondation d'Auteuil. Le 1er juillet 2009, la crèche de l'œuf a été pensée comme un lieu d'accueil pour le bien-être des enfants et des parents où l'on pratique la co-veillance. Être attentif aux besoins des enfants et de leurs parents, développer des synergies entre les professionnels et les familles, créer des réseaux de parents, impulser et inventer de façon à réactualiser du lien social au plus proche de la vie quotidienne de chacun, être un lieu où on tient compte de l'enfant en tant que personne, offrir un accueil de qualité, dialogue, écoute et accompagnement entre les familles et les professionnels. C'est terminé. Accompagner en douceur le développement de l'enfant et la notion de séparation. J'ai oublié de parler, j'ai laissé cette part-là à Karima Berich pour parler de la SCQB.
Oui, mais
de l'œuf aussi.
Je peux...
Je t'en prie.
D'accord, parce que je pensais qu'il y avait peut-être une pause musicale. Juste avant de répondre à la question de Jean-Pierre, moi, il me semble, au regard de la déambulation spatio-temporelle que tu viens d'évoquer, il y a deux temps, en tout cas, il y a deux voire trois temps historiques de cette histoire des acteurs associatifs du Grand Saint-Barthélemy. Et alors, toute l'histoire des années 60 avec la mobilisation d'habitants, mais aussi d'acteurs associatifs sur l'amélioration du cadre de vie du Grand Saint-Barthélemy. Puis il y a les années 80 où effectivement la gauche arrive au pouvoir et va rendre dynamique la vie associative. Il faut juste se rappeler qu'il y a une loi qui va être amendée qui permet effectivement aux résidents étrangers de pouvoir créer leur association, ce qui était à l'époque extrêmement difficile. Et ça va effectivement permettre à ce qu'on appelle la seconde génération issue de l'immigration de s'engouffrer dans cet espace qui est un espace citoyen, qui est un espace public, qui est un espace de création, qui va s'engouffrer et qui va, on va voir dans ce territoire la création d'énormément d'associations avec quand même une entrée privilégiée par ces acteurs de l'époque et effectivement l'entrée culture. Ça, donc, il y a vraiment une dynamique qui s'inscrit avec le développement en nombre d'associations dès les années 80. Beaucoup vont disparaître au milieu des années 80, mais l'essentiel dont a parlé Jean-Pierre continue à exister jusqu'à aujourd'hui, tant bien que mal. La deuxième partie, Jean-Pierre l'a abordée rapidement, c'est 2002. 2002, c'est un changement de gouvernement. Et ce changement de gouvernement va commencer à réduire les aides aux associations et notamment sa dimension culture. Et ça va être un peu le point de ce qui va, oui, ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin, ce qui fait que Baudienne-Soul a eu du mal à continuer et à fermer ses locaux en 2009 parce que la culture n'est plus n'est plus favorisé par le gouvernement de l'époque, 2002. Alors Boudier-Ensoul, pardon, continue tant bien que mal jusqu'à 2009, et puis ça sera la fermeture. Mais il y avait aussi une structure qui organisait le marathon hip-hop chaque année et qui drainait des milliers de personnes à Pont-Obscur pour assister à des scènes ouvertes autour du rap et de la scène hip-hop, pour la scène hip-hop. Et cette action portée par Média 2 Méditerranée va s'arrêter. Donc on s'aperçoit qu'effectivement la culture, c'est d'abord les années 80 jusqu'en début 2002. Ça devient le parent pauvre et certaines structures vont commencer à s'arrêter. Et ça, c'est quand même assez dommage.
Pour compléter, Karima, si tu permets, Karima, elle m'a permis de reprendre mon souffle. Il faut voir la dynamique culturelle qu'il y avait dans ce quartier. Qui se souvient de la guinguette? Qui se souvient des spectacles de rue qui traversaient Fond Vert, Piquant, Busserine, Flamand? C'était quand même exceptionnel. Il n'y avait pas un quartier de Marseille qui était aussi bien achalandé, aussi bien animé. C'était vraiment, donc c'est effectivement les financements ont périclité et Boudier-Ensoul a fermé en 2009, mais pas que, il y a eu aussi Vet Service, il y a eu l'AXAG, voilà.
Bien, merci.
Alors, effectivement, certaines associations ont fermé, tu viens de les citer, Jean-Pierre, mais d'autres ont réduit leur voilure par manque de subventions. Et effectivement, une association ne peut pas continuer à assurer l'ensemble de ses actions si les financements ne suivent pas. Et donc, dès 2002, on s'est rendu compte, en tout cas, nous, acteurs associatifs du Grand Saint-Barthélemy, qu'au fur et à mesure, les subventions diminuaient. Et donc, de fait, soit il y avait deux options, soit on fermait, soit on réduisait les activités. Et on a été dans une situation un peu d'appauvrissement de ce secteur associatif par rapport aux années 80.
Merci.
Je vis de cloche, poche, vis de baisse, fastoche. Mais la poisse s'accroche à face de mes têtes. Je viens du bled, plein de verbes dans les bagages. Ça, je tiens ma rage dans ma gorge. La plage déserte me pousse au cafard. Je traîne dans les bars, tard le soir où les soulards se filent au rasoir. Spliff noir dans le sandard, je sombre dans le mégot trip égoïste. Jette mes tripes dans la musique Mars, ma ville un plateau où le désert avance un gâteau. Partagé à 10 méros, pendu à un lasso. Nourri au gaz de ville à la lumière orange. Comme elle, je dérange étranger aux pensées étranges. De tagine, de pruneau, de mafias, à poisson frais, pas de carbo, les épices me collent à la peau. Assise là, les pieds dans l'eau, sous l'œil du préau. Ma ville s'éveille chaque matin quand les fourmis s'en vont au boulot. Fragile, un porte-à-faux, situation bancale, normale, tout le monde se barre. L'économie chaotique comme une vieille mécane pluri-ethnique. Cohabitation naturelle, les cultures, les mœurs, les couleurs, danse comme dans une aquarelle. Sun ou serval, dévoile la face, bête de la carte postale, la tonne cache des nuages, un cercueil passe, mauvais présage. L'ennui vainqueur, sur peur devant les seringues de l'horreur. Le noir château, en paix sans un mot, Marseille. Aspire au renouveau.
Toujours à l'écoute des échos du Grand Saint-Barthélemy, comme promis au début de l'émission, nous reprenons avec Samia Chabani, présidente, directrice de Ancrage. Notre téléphone de l'émission, c'est 07 49 53 26 38. Alors, Ancrage, justement, on va partir du mot Ancrage. C'est toi qui as choisi ce mot, je suppose, à l'époque.
Oui.
C'était en 2000, c'est bien ça.
Oui,
il y a 22
fait.
Ans,
oui, oui.
Le temps
Absolument,
passe.
C'était en 2000 et c'était en référence à un processus d'enracinement des populations migrantes en France, mais aussi le lexique de la navigation, parce que quand on s'ancre quelque part, on peut aussi repartir ailleurs. Et donc, c'est à la fois l'enracinement, mais aussi la mobilité, mais aussi l'étape, en fait. Et je trouve que ça a été Marseille, ça a été à la fois une ville d'immigration, mais c'est aussi une ville transit. Et ça, c'est une dimension importante à Marseille, puisque Émile Temim, que Karima citait précédemment, disait que c'était une ville où l'immigration, notamment algérienne, avait été à la fois la plus précoce et la plus durable. Et en découvrant Marseille, moi, je me suis rendu compte à la fois des ressemblances et des différences avec l'ancrage de populations immigrées dans d'autres villes de France. Et je pense que c'est l'une des villes dans laquelle l'immigration a été la plus inventive, la plus créative, la plus engagée en faveur justement de cette valorisation de l'histoire de l'immigration.
Et donc tu as décidé de travailler seulement sur Marseille ou c'est plus largement ?
Alors initialement, oui, on a même porté la focale. On était presque sur une entrée micro-locale parce que ce qu'on a réalisé et ce que vous avez évoqué, le rappel, c'est qu'il y a eu un très grand effacement de ces présences immigrées. Il y a eu très peu de travaux de valorisation, de démarches de sauvegarde d'archives. Il y a eu plein de collectes de témoignages, par contre. Il y a eu des formes, on va dire, diverses, qui n'étaient pas toujours des formes qui étaient inscrites dans les institutions patrimoniales, la recherche, des éléments importants. Parce que, évidemment, qu'entre nous, on peut continuer à raconter cette histoire dans un entre-soi qui est celle d'une communauté de destin, qui est celle des personnes issues de l'immigration. Mais ça me semblait être important aussi que ce nous soit un nous plus élargi et qu'on devienne les agents de cette histoire à part entière, c'est-à-dire qu'on passe aussi de cette phase un peu d'objet de recherche que nous étions dans le champ académique ou même du point de vue des politiques publiques, je pense notamment à la politique de la ville, et que nous prenions vraiment la parole en décidant, nous, de nommer nos rues, de à qui nous souhaitions tendre le micro pour prendre la parole, valoriser la présence aussi de nos parents et de nos anciens, et dans leur diversité, ça pouvait être des figures emblématiques comme celle de prêtres ouvriers, mais aussi de militants du Parti communiste qui sont quand même deux grandes figures. Je rajouterais peut-être les enseignants, des grandes figures présentes dans les quartiers populaires qui n'étaient pas nécessairement présents dans la recherche ou dans les institutions patrimoniales. Et c'était un peu notre job à nous, cette génération, de devenir vraiment sujet de cette écriture de l'histoire. Et c'est comme ça qu'est né Ancrage, c'est-à-dire qu'à la faveur à la fois d'un paysage associatif extrêmement riche et qui a été fondateur de l'identité aujourd'hui du Grand Saint-Barthélemy, mais aussi de Bassins, de La Caillole, etc. On voit bien qu'il y a des quartiers comme ça qui émerge par l'engagement de ses habitants, de leurs habitants, en faveur de l'histoire et de la mémoire de ces quartiers. Et ça, je trouve que c'est très intéressant que dans ce sillon-là, ce travail que vous avez, vous, initié, une association comme Ancrage ait pu, en tout cas, a fait au mieux pour sauvegarder aussi des archives. C'est le cas, il faut le rappeler, pour le Grand Saint-Barthélemy, pour les archives de Bodhi-Ansoul, de Sheba, d'Assur, un certain nombre d'associations qui ont été vraiment extrêmement importantes dans cette mobilisation à la fois en faveur de la défense du cadre de vie, mais aussi en faveur de l'histoire des migrations et l'histoire des quartiers populaires.
Jean-Pierre ?
Oui, effectivement. J'avais oublié de parler d'Assure, qui a été une association très importante, qui a formé même, je dirais, des professionnels tels que Bania Meshbar, tels que Zubida Meghani, tels que Evelyne et Fawzi Grammy. Beaucoup de professionnels sont issus de cette structure-là. Et j'ai oublié, évidemment, bien évidemment, puisqu'on nous y sommes, le comité Mamega. Attends, je n'ai pas parlé, mais le comité Mamega c'est à peu près la même époque que Sheba et Boudien Soul, quelques années après. Et bien sûr, les ateliers de noms de rue sont aussi l'une des prérogatives du comité Mamega. Il faut savoir que la dimension locale, mais aussi la dimension nationale, puisque nous avons la rue Aimé Césaire aussi, donc, qui a été proposée par inaugurée avec le comité Mamega, et la rue Émile Témim, qui est en projet aussi. Donc, de fait, voilà. J'ai oublié de parler d'une évidence, mais le comité Mamega, le travail de mémoire que fait Ancrage et celui du comité Mamega sont en lien, font écho.
Concrètement, comment ça se passe donc, quand tu allais voir les associations pour prendre leurs archives, qu'est-ce que tu en fais, comment on peut les consulter?
Alors, à partir de 2007, on a commencé cette collecte d'archives papier, hein, c'est comme ça qu'on dit dans le monde archivistique, donc qui a abouti à la sauvegarde d'une dizaine de fonds associatifs. Alors, comment déjà sélectionner des associations dites de l'immigration alors qu'en fait, on va voir des centres sociaux, on va voir des associations de quartier, des associations dites de proximité, tout simplement d'abord parce qu'elles revendiquent cette appartenance au mouvement social de l'immigration, comme elles revendiquent peut-être leur appartenance par ailleurs à des mouvements d'éducation populaire, de prévention spécialisée, etc. Donc ça, c'était un élément de méthode qui n'était pas si évident que ça, parce que bien sûr, faire ce travail d'intermédiation entre des acteurs associatifs de proximité qui n'ont pas toujours, il faut bien le dire, conscience de l'intérêt historique de leurs archives et des services d'archives qui, eux, n'ont pas du tout l'habitude de démarcher des acteurs associatifs, parce qu'il faut le rappeler, du point de vue des fonds publics et des archives publiques, les associations sont des fonds qui ne sont absolument pas prioritaires. Hein, ce sont des fonds qui entrent dans les fonds publics par la voie dite extraordinaire. C'est-à-dire soit une personne, un militant propose de déposer ses archives. Ça a été le cas, par exemple, pour Alain Fourest, pour citer quelqu'un qui est connecté avec ce territoire. Et ça peut être aussi, à contrario, un archiviste qui décide de vraiment porter la focale sur un territoire ou sur des archives privées. Alors, dans les archives privées, il y a les archives d'entreprise, il y a les archives des syndicats, il y a les archives associatives. Donc, vous imaginez bien que dans une ville comme Marseille, assez rapidement, les archives départementales ont créé un département d'archives orales et associatives. Et que moi, je me suis vraiment appuyée sur ce service pour leur dire, écoutez, nous, on fait l'intermédiation avec les acteurs associatifs que nous avons identifiés comme d'intérêt historique. Donc, il fallait quand même que des deux côtés, il y ait une certaine reconnaissance de légitimité à faire ce travail. Et ça a été le cas aussi à la faveur, notamment dans le sillon du travail de générique, mais aussi d'une circulaire de la Direction des Archives de France en 2009 qui incitait les fonds d'archives publiques à accueillir des fonds privés et notamment des fonds privés dits d'associations de l'immigration. C'était aussi la grande célébration de la loi pour la liberté associative en 2001 qui a apporté une focale sur ces fonds qui étaient moins présents dans les fonds d'archives publiques et c'était très dommageable. Pour vous donner un exemple concret, un chercheur qui a engagé par exemple un travail de thèse sur nos quartiers, il avait accès à des fonds d'archives publiques qui étaient souvent produits soit par les bailleurs, soit par les services de la préfecture, mais pas du tout des associations et des habitants. Ce qui, vous le conviendrez, était quand même un regard assez, assez partisan. Et donc tout l'intérêt est arrivé assez manifeste, je dirais, aux yeux des archivistes. Je dirais même que dans les services d'archives, il y a des militants, en fait. C'est ça qu'il faut prendre en considération, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui étaient convaincues aussi côté archives que c'était essentiel que cette histoire qui est celle de l'immigration puisse apparaître dans les archives publiques. Juste pour finir et vous laisser rebondir, je pense que c'est aussi à partir des années 80 et la prise de conscience progressive que l'immigration n'était pas un phénomène temporaire mais un phénomène durable, que donc nous allions tous devenir français d'une manière ou d'une autre, même si on a pu être considérés pendant un temps comme des Français de seconde zone. On allait, c'est le fameux slogan de « j'y suis, j'y reste » hein, des années 80. On allait rester et on allait aussi rester dans les archives et apparaître dans les archives. Et je pense que cette double conscience à la fois des familles immigrées et des hommes politiques et des décisionnaires a permis aussi une meilleure prise en compte dans un temps, à mon avis, qui a été relativement court, que j'estime à 30-40 ans, parce qu'aujourd'hui, je pense que ça a déjà beaucoup changé, une prise en compte de ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire culturelle des Maghrébins, des Antillais en France.
Merci. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de réalisation d'ancrage?
Oui, alors comment on travaille? D'abord, on travaille sur... longtemps, on a travaillé sur la qualification des acteurs locaux sur leur fonds d'archives. Donc, on a collecté, sauvegardé, récollé. Tout ça, c'est des termes un peu techniques, mais qui sont importants parce qu'il ne faut pas imaginer qu'on garde tout dans les fonds d'archives. Les archivistes font de l'échantillonnage, donc ils détruisent un certain nombre d'archives. Il faut le savoir. On a donc aussi, bien sûr, développé des actions de médiation culturelle qui, pour nous, étaient importantes parce que tout ce travail de collecte d'archives, il est resté relativement invisible. Et d'ailleurs, durablement, on a aussi, par exemple, travaillé sur des fonds d'archives comme celui de la CIMADE. Et la CIMADE a conservé son fonds d'archives, elle ne l'a pas donné aux archives départementales. Depuis, ça a été le cas. Les actions de médiation culturelle, elles sont très importantes parce que c'est elles qui rendent visible l'action de l'association. Donc, c'est transmettre la question de la transmission et de la valorisation de l'histoire et des mémoires d'émigration aussi par une entrée quartier. Là, on le voit pour le Grand Saint-Barthélemy. Ce que vous êtes en mesure de valoriser, c'est très, très incarné. Vous incarnez énormément cette histoire. Mais pour les suivants, sur quoi vont-ils s'appuyer? Sur des archives, des témoignages, peut-être des recherches universitaires, et on le souhaite, hein, on travaille aussi dans ce sens. Mais vous voyez que cette question de la sauvegarde de la source, elle est déjà indispensable à la valorisation de la ressource. Et donc, dans ce travail de transmission, nous, ça a pris la forme d'une offre pédagogique un peu scolaire, académique, qui est des balades patrimoniales, des cafés histoire, donc des temps où on porte la focale sur l'histoire d'un quartier, et aussi des expositions itinérantes, alors que parfois on produit et que parfois on diffuse. Aujourd'hui, on est partenaire de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et ses abolitions. On est partenaire du Musée d'histoire de l'immigration à Paris. On est partenaire avec d'autres acteurs associatifs et des groupes de recherche comme l'ACHAC, qui ont déjà beaucoup produit de contenu et qui ont fait un travail d'investissement important en termes de reproduction, d'archives, de photographies, parce que nous, aujourd'hui, nous serions incapables en termes financiers de le faire. Et c'est vrai qu'on a quand même toujours une petite frustration parce qu'on voit bien que, en fait, dans tous ces outils qu'on évoque, en dehors des balades et des cafés histoire, on est vite rattrapé par l'histoire nationale. Et c'est un peu ça la frustration, c'est-à-dire que comment aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin finalement que des gens à Paris produisent des expositions sur l'histoire des quartiers de Marseille? En fait, nous, on serait en mesure de le faire si on en avait les moyens et la dynamique. Mais disons que c'est un premier support, et moi ce que je fais souvent, c'est que je crée soit un panneau supplémentaire, soit un temps de médiation, où on évoque plus particulièrement l'histoire des quartiers de Marseille. Il faut dire aussi, pour te répondre tout à fait précisément, Saïd, que ces 20 dernières années, nous n'avions pas été soutenus par la ville de Marseille. Or, tu m'interrogeais par exemple sur la question du territoire. Il est évident que du micro-territoire, du micro-quartier à un échelon national, même voire transnational, parce que ça nous arrive de travailler avec l'Algérie, le Maroc ou le Sénégal, l'enjeu, c'est bien de faire circuler ces sources et ces contenus sur l'histoire des migrations, et je dirais même plus récemment sur l'histoire coloniale et l'histoire de l'esclavage. Ce que nous n'aurions pas pu faire il y a 20 ans. Et ça, c'est aussi une évolution sur laquelle on pourra revenir si vous le souhaitez.
Ce qui me paraît intéressant dans cette pause et cette rencontre avec Ancrage, c'est une première d'ailleurs, c'est peut-être de mettre le doigt, l'accent, non pas seulement sur la mémoire, mais aussi sur ce que peuvent nous apporter, ce que peuvent nous apporter les archives départementales. Peut-être qu'il serait intéressant d'envisager, par le biais d'Ancrage, une rencontre aux archives départementales pour les associations, parce que tous les opérateurs sont vieillissants, tous ceux qu'on a connus, qui ont créé, sauf la belle Karima, qui elle est immuable comme les pyramides. De fait, ce serait peut-être intéressant de se rendre compte de ce travail des archives, parce que c'est vrai, pourquoi faut-il que ce soit les autres qui parlent de nous, alors que nous, nous avons aussi notre propre lecture, notre propre écriture sur ce territoire. Donc, et ça permettrait aux associations comme le comité Maméga et d'autres qui sont encore présents sur le territoire, je sais pas, de prendre conscience de l'importance. Parce que ce qui restera sur ce territoire dans quelques années, ce n'est pas les activités rap, machin, mais c'est le travail de mémoire. Le rap, que ce soit échec, que ce soit lecture, c'est le travail de mémoire qui est essentiel donc, pour la ville, pour l'histoire des migrations. Donc à travers Ancrage, on pourrait peut-être envisager une rencontre d'archives pour découvrir non seulement ce que l'on a retenu des associations qui ont disparu, mais ce vers quoi on pourrait tendre. Voilà.
Non, je suis tout à fait convaincue par... D'abord, vous êtes des donateurs autour de la table. Vous avez tous contribué d'une façon ou d'une autre à justement permettre de valoriser des archives dans les fonds publics. Et ça, je pense que c'est très important. Le choix de ne pas créer un centre d'archives spécifique à l'immigration, mais de vraiment s'engager pour enrichir les fonds publics, parce que c'est ce que nous avons tous fait ensemble. Aujourd'hui, il est probablement temps aussi de demander comment c'est valorisé dans les fonds publics. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-Pierre, vous avez donné. Et maintenant, le contre-don, ce serait peut-être que, par exemple, les archives départementales créent un instrument de recherche qui valorise l'histoire des migrations à Marseille. Et ça, c'est quelque chose que nous devons peut-être revendiquer ensemble. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand même le comité Maméga, par son site internet, son émission de radio, la production et la valorisation autour de la figure de Madame Méga, que nous avons aussi, nous, évoquée, parce que c'est une figure de grande modernité aujourd'hui, où on revient sur les nouvelles façons de militer chez les plus jeunes, et l'afroféminisme en fait partie, mais pas que. Je pense que c'est aussi ce travail que vous faites, c'est d'invoquer finalement des figures militantes comme celle de... Comme celle de Madame Méga et pour ce quartier, mais pas seulement. Je veux dire, on voit bien que l'entrée territoriale, elle suffit pas pour évoquer cette histoire-là. Et surtout, elle est très importante à mettre en lien avec d'autres quartiers à Marseille, mais aussi à l'échelle du département et même à l'échelle de la France. Parce que Saïd Boukenouche le sait bien, les mouvements de mobilisation collective qui ont concerné les quartiers populaires, ils dépassaient le micro local, c'était des dynamiques nationales.
Un dernier point, les noms de rues. Il se trouve que l'année dernière ou l'année d'avant, le gouvernement avait décidé de faire en sorte que un certain nombre de personnes donnent leur nom à des rues, parce que bon, tout le monde savait qu'en gros, les noms de rues, c'était essentiellement des hommes et essentiellement des blancs. Et donc la question s'était posée, qu'est-ce qu'on fait pour que d'autres populations qui sont en France et qui sont françaises puissent se retrouver dans le nom de rue? Et je pense que ça suit ça de manière proche.
Oui, alors j'ai accepté d'être membre du conseil scientifique du rapport Portrait de France qui a été commandé par le président de la République. Il en a commandé quand même un certain nombre qui nous concernent, hein, autour de la table. On pense au rapport Stora sur la guerre d'Algérie, on pense à celui de Fellow Insar sur la restitution des œuvres. Je crois que ce gouvernement a vraiment souhaité entrer dans la question des mémoires sensibles. Ce rapport qui a été confié à l'historien Pascal Blanchard autour d'un comité restreint d'une vingtaine de personnes a permis de remobiliser franchement des travaux qui existaient déjà sur la façon dont les étrangers ont participé à l'histoire culturelle, à l'histoire économique et à l'histoire aussi militaire d'ailleurs française. Bon, c'est un rapport qui reste à faire vivre, je pense. Il y a la déclinaison dans une exposition qui a été faite. Moi, dans mon rôle a constitué principalement à faire des propositions de Marseillais, de Marseillaises en particulier, parce que tu as raison de le rappeler, il y a moins de 2% des noms de rue qui sont des noms de femmes. Et de toute façon, indépendamment d'ancrage, il y a plusieurs collectifs à Marseille qui se sont impliqués, qui se sont engagés en faveur du changement de la toponymie. Le principal problème, c'est tout simplement que, comme beaucoup d'autres collectifs, nous n'avons pas voix au chapitre, puisque nous ne sommes pas membres de la commission des noms de rue de la ville de Marseille. Ce que nous avons demandé à plusieurs reprises, au même titre, par exemple, qu'une association comme le comité du Vieux Marseille, nous estimons que les états généraux de la culture, que l'association Ancrage, que pourquoi pas l'association Aram ou d'autres, puissent participer à cette commission des noms de rue. Le rapport qui a été proposé, il a principalement valorisé des grandes personnalités, moins des anonymes. Et je le regrette aussi, parce que je pense que dans les quartiers, justement, il y a des personnalités qui sont importantes, et je vous avoue, vous n'avez pas attendu le rapport Blanchard ou à autre, ou le portrait de France, pour déjà à l'échelle de votre quartier vous engager en faveur d'une toponymie qui vous ressemble. Et je pense que voilà, c'est un travail qui se poursuit, mais qui se poursuit aussi au sein des instances décisionnaires et pas seulement dans des rapports au gouvernement.
Merci. Karima ?
Non, juste pour ajouter à ce que vient de dire Samia, il me semble aussi qu'il y a un mouvement qui vient de citoyens, notamment issus de l'immigration postcoloniale, mais pas que, de décoloniser des noms de rue pour qu'elles portent des noms de rue autres. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a eu un acte, alors je qualifie de courageux, du maire de Marseille, qui a décolonisé une rue pour la donner à un tirailleur algérien, et ça c'est important. Donc je pense que il y a à la fois évidemment les décisions d'un gouvernement, en l'occurrence celui de Macron, mais il y a aussi la volonté de citoyens d'impulser d'autres dynamiques complémentaires, et la décolonisation de noms de rue est extrêmement importante pour rappeler que l'histoire de la colonisation, c'est une histoire extrêmement violente, meurtrière, etc. Et que des noms de rue qui portent le nom de colonisateur ou esclavagiste, c'est insupportable. Et que si je ne savais pas qu'il y avait moins de 2% de noms de rue qui portaient des noms de femmes, mais dans les 98%, je pense qu'on peut en balayer certains, réhabiliter des vraies figures historiques, à la fois républicaine et universelle, notamment dans une ville comme Marseille, qui est un port ouvert à l'histoire des différentes immigrations, me semble-t-il.
Merci. De notre côté, là, avec le comité Maméga et d'autres associations, on avait rencontré, au moment du confinement, par Zoom, des élus, Gassian, Bonnefoy et Main. On avait parlé de ce nombre de propositions. C'était il y a un an, et depuis, il n'y a aucune réponse. Et donc, je pense que ça va être le bon moment de relancer les choses, puisque maintenant, le Covid est un peu derrière nous. Merci beaucoup, Samia, d'être déplacée, de ces informations. Je pense qu'il y aura d'autres moments où on pourra se revoir pour continuer ces échanges.
Volontiers. Merci beaucoup,
oui,
à vous.
Tout à fait. Merci.
Marseillaise, Marseillais, je ne vous dirai qu'une chose, votez pour moi, parce que si j'étais maire de Marseille, je ne promettrais rien. Si j'étais maire de Marseille, je dirais simplement bien. Notre ville est si vieille et elle ne se porte pas bien. Beaucoup d'entre nous sommeillent, d'autres mènent une vie de chien. Et moi je galère, toi tu galères, la plupart de nos élus n'en ont rien à faire. Moi je galère, toi tu galères, et le Front National remplace le Front Populaire. Si j'étais maire de Marseille, j'irais voir mes concitoyens. J'irai de l'Estac à la Treille, je tisserai des liens. J'ouvrirai grand mes oreilles pour les jeunes et les anciens. Et j'adorerai ceux qui essaient.
Comme pour chaque émission, nous terminons par les communiqués. On va commencer par Jean-Pierre.
Alors, le festival de littérature Haut les Beaux Jours se tiendra à Marseille. Le festival de littérature Haut les Beaux Jours se tiendra à Marseille du 24 au 29 mai 2002. C'est avec grand plaisir que je vous glisse l'information de façon à ce que vous puissiez vous rendre au MUCEM. Vous regardez sur internet hautlesbeauxjours.fr, événement Briser les chaînes.
Toujours au MUCEM, l'exposition Abdelkader qui qui a commencé depuis un petit moment. Et il y a une date à retenir, c'est le 6 mai, 17h30, un film de Salem Brahimi qui est tourné en 2013. Donc c'est le vendredi 6 mai. Et il y aura aussi un documentaire conté en arabe dialectal avec la voix d'Amazir Kateb, le fils de Kateb Yassine.
Le samedi 21 mai 2022 à 20h30, Mamanté, association partenaire du comité de la Méga, et la Cité de la musique de Marseille présente Festival Cadence Caraïbes, 10e édition, initiative à laquelle est associé le comité Maméga. Première partie, Abraham Réunion, Fit Arnaud Dolmen. Deuxième partie, Grégory Privat. Une rencontre littéraire est prévue avec Pierre-Édouard Décimus, qui a sorti un livre sur le groupe Kassav. Vous pouvez découvrir le programme sur le site www.cadence-caraïbes.com. La 6e édition du festival Haut les Beaux Jours se déroulera donc à Marseille, n'oubliez pas, du 24 au 29 mai 2002.
Et enfin, pour terminer, le ZEF Le Merlan, scène nationale, le 28 avril, danse avec Queen Blood, Ousmane Sy et 7 danseuses. Du 3 au 4 mai, théâtre Grémy de Jonathan Capdevielle. Et du 9 au 13 mai, théâtre Musique Atelier, spectateur complice, le cri d'Antigone de Loïc Guénin. Et enfin, du 31 au mai au 3 juin, rencontre théâtre-danse, les planches animées, donc c'est au ZEF Le Merlan.
Je profite pour ajouter aussi juste des informations rapides sur le collectif L'Algérie au cœur et les prochaines conférences débats qui se tiennent à Marseille. Donc le 13 mai, c'est avec Sylvie Thénault autour de son dernier ouvrage sur les ratonnades d'Alger, et ce sera à la librairie L'Hydre aux Mille Têtes. Et le 20 mai, c'est la diffusion du film sur les traces de Fanon, film produit et réalisé par Mehdi Lalaoui et qui aura lieu au cinéma Les Variétés. Donc vous pouvez tout retrouver sur le site ancrage.org. Merci.
Merci Sidi, merci à tout le monde. Au mois prochain, on se reverra, j'espère.
Juste avant de finir, on tient à remercier les auditeurs et les auditrices et les financeurs, ceux qui nous financent. On tient à les remercier aussi. Et on vous invite d'aller sur le site du vivreensemble.org. Et vous allez voir un petit peu le travail qu'on fait au sein du comité Maméga. Merci de nous donner la parole, Saïd.